Bonsoir Élie Habergel.
Bonsoir à tous. Les chats ont 9 vies, mais lui en a eu beaucoup plus. L'auteur Jean-Loup Dabadie est mort à 81 ans aujourd'hui. C'est une page de ma vie qui se tourne, confie Michel Drucker. 2000 tapis de prière sur les pelouses de stade à Levallois-Perret. Des musulmans font rimer respect des consignes sanitaires avec célébration de l'Aïd el-Fitr. Et si vous profitiez des vacances d'été pour redécouvrir notre magnifique France, le gouvernement vous y encourage fortement en tout cas. La prise d'otage d'une militaire de Sentinelle à l'aéroport d'Orly en 2017 n'est pas un attentat islamiste. Après 3 ans d'enquête, le juge antiterroriste se déclare incompétent. Hong Kong renoue avec la contestation des milliers de manifestants de nouveau dans les rues cet après-midi pour s'opposer à la Chine.
France Inter.
Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi.
Vous avez forcément eu cette chanson une fois en tête. Son auteur, Jean-Loup Dabadie, est mort à 81 ans aujourd'hui. Il a prêté son immense talent à Michel Polnareff, Serge Reggiani ou Julien Clerc, que vous entendez. Guy Bedos aussi, pour vous faire rire. Plus de 60 ans de carrière dans tous les domaines artistiques, Stéphane Capron.
Jean-Loup Dabadie a baigné dans les mots tout petit. Son père, Marcel, était le parolier des frères Jacques et de Maurice Chevalier. À 19 ans, il publie son premier roman et commence à écrire des chansons pour Serge Reggiani. Puis viennent les grands tubes de Michel Polnareff. Tout le monde s'arrache la plume de Jean-Loup Dabadie pour sa tendresse et sa mélancolie. Avec Claude Sautet, il signe les scénarios des plus grands films français des années 70, de César et Rosalie, en passant par Vincent, François, Paul et les autres, et Les choses de la vie. Jean-Loup Dabadie était modeste et s'effaçait toujours derrière les artistes.
Les interprètes sont les souffleurs des auteurs, sans le savoir, sans le vouloir la plupart du temps. C'est-à-dire que vous vous creusez l'âme, quelquefois sans succès, en cherchant un sujet de film, de pièce, de sketch, de chanson. Moi, je me rappelle quand j'écrivais des films pour Claude Sautet, où on avait Romy Schneider, les scènes, avant le dialogue même, les scènes pour Romy, je m'imprégnais de sa personne, de ses silences, de sa voix, de ses regards lumineux, de son charme fou, et je n'aurais pas pu écrire le rôle pour quelqu'un d'autre.
Jean-Loup Dabadie a marqué la culture populaire des années 70-80, mais il n'a jamais lâché l'écriture. Il venait de terminer l'adaptation pour le cinéma d'un roman de Georges Simenon, Les volets verts.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai...
La chanson d'Hélène par Romy Schneider et Michel Piccoli dans le film Les choses de la vie. Chanson écrite par Jean-Loup Dabadie. Ce soir, cascade d'hommages pour cet immense auteur donc. Il avait un don incroyable d'écrire pour les personnes qui interprétaient. Il collait aux artistes, raconte Jane Birkin. L'académicien Frédéric Vitou parle d'un modeste qui cherchait à donner voir les autres. 2000 croyants ont pu célébrer l'Aïd el-Fitr en plein air dans deux stades de Levallois-Perret aujourd'hui, le dernier jour du mois de Ramadan, fêté dans un contexte de crise sanitaire. Le Conseil français du culte musulman appelait à prier en famille, même si les lieux de culte ont réouvert. Ali Esbeki, président de l'Union des musulmans de Levallois, dévoile les coulisses de ce tour de force.
On a travaillé conjointement avec la ville. Et hier, on a passé la journée à faire des tests, à faire des essais, à prendre nos repères. 1 mètre de distance, port du masque obligatoire. On a fait une vidéo où on expliquait aux gens les règles strictes.
Chaque personne donc ramène son tapis et on lui passe du gel hydroalcoolique sur les mains.
Et les personnes qui n'ont pas de masque, on leur fournit un masque. On sort enfin de ce cauchemar qui a été le coronavirus pour toute la population française et pour les Français de confession musulmane. Regoûter à sa foi et oui, on revit, il fait beau, tout le monde est content, tout le monde est heureux.
Soulagement et prudence de la communauté juive aussi, le rabbin de Ris-Orangis conseille de ne pas ouvrir les synagogues pour les fêtes de Shavuot de Pentecôte fin mai. L'office dure 3 heures dans un espace fermé. Michel Serfati redoute donc que les synagogues deviennent des clusters. À Toulouse et Villeneuve-d'Ascq, 2 foyers resteront fermés demain, après 2 écoles resteront fermées demain, après des cas de Covid-19 détectés chez des agents municipaux ayant travaillé dans les locaux. Vous saurez bientôt à quoi vont ressembler vos vacances cet été. Le gouvernement va faire des annonces dans la semaine, mais Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, nous invite déjà à rester en France.
Je pense qu'on a dit très clairement aux Français que aujourd'hui, il faut organiser ses vacances en France. Vous savez que les frontières avec l'espace hors Schengen reste très contrôlé. On n'invite absolument pas les Français à envisager des vacances à l'étranger. Mais ça tombe bien, on a beaucoup de sites formidables et très beaux à visiter en France. Donc ça, cette année, ça sera plutôt l'idée de passer ses vacances en France.
Elisabeth Borne, invitée de Questions politiques sur France Inter ce midi, la ministre de la Transition écologique met aussi en garde Renault. L'entreprise doit faire le maximum pour garder l'emploi et l'activité en France. Le constructeur prépare un plan d'économie de 2 milliards d'euros, menace de fermer 4 usines en France. Le président des Républicains, Christian Jacob, tire à boulet rouge sur Gérald Darmanin. Le ministre de l'Action et des Comptes publics cumule depuis hier son portefeuille avec son mandat de maire de Tourcoing, avec l'aval du chef de l'État. Selon qu'on est copain avec le président de la République ou pas, les règles sont différentes, dénonce Christian Jacob.
Et pour rappel, on parlera du second tour des municipales. Au téléphone sonne tout à l'heure à 19h20. Le Standard vous attend à bras ouverts. Et maintenant, Élie, une décision très rare. La justice antiterroriste se déclare incompétente dans l'attaque de l'aéroport d'Orly en 2017.
Le 18 mars, cette année-là, un homme prend en otage une militaire de Sentinelle. L'assaillant est finalement tué par d'autres soldats. Ses dernières paroles, je suis là pour mourir par Allah. Et pourtant, après 3 années d'instruction, le juge antiterroriste considère que ce n'est pas un attentat islamiste. Joseph Hazan, l'avocat d'un des mis en examen accusé d'avoir fourni une arme, se félicite de cette décision.
On est souvent confronté à un certain automatisme dans la qualification terroriste d'un acte, surtout lorsqu'il présente, comme c'est le cas ici, plusieurs similitudes avec d'autres attaques plus ou moins identiques. Un mode opératoire, des cibles comme celle-ci, les propos éventuellement tenus. Et il est très très difficile de s'en départir ensuite au cours de l'instruction. Et je crois que la justice commence à avoir suffisamment de recul pour prendre des décisions courageuses comme celle-ci. C'est une analyse qui est extrêmement juste et rigoureuse, conforme aux éléments de l'enquête. Et il faut s'en féliciter, d'autant plus pour ceux qui ont passé plus d'un an en détention et 3 ans mis en examen, avec une qualification terroriste qui est extrêmement lourde à porter, d'autant plus dans le contexte actuel et même surtout celui qu'on connaissait à l'époque, en 2017, après des années 2015 et 2016 sanglantes. Et je crois que même les parties civiles peuvent et doivent se féliciter que l'état de droit est primé dans cette décision de justice.
À Paris, une avocate verbalisée hier pour non-respect de l'interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes. Maître Anna Rajenbach assure qu'elle remplissait sa mission d'avocat en informant les proches de ses clients. Une rencontre professionnelle autorisée donc, assure-t-elle. Une odeur de gaz lacrymogène flotte à nouveau sur Hong Kong. Affrontement entre police et des milliers de manifestants cet après-midi. Les contestataires protestent contre la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, Florence de Changy.
Après les gaz lacrymogènes et les canons à eau, les slogans, les mêmes qu'il y a bientôt un an, qui rappellent que rien n'est réglé, la situation s'est même aggravée. En fin de journée, quelques milliers de jeunes hongkongais sont encore là, assis sur les trottoirs de l'une des grandes rues de l'île de Hong Kong, Hennessy Road, en attendant que la police anti-émeute ne revienne à la charge. Sam, 28 ans, est né et a grandi à Hong Kong. Il est cuisinier dans un hôtel. Il sait bien sûr que ce rassemblement est interdit. S'il se fait arrêter, il a prévu de dire qu'il faisait juste des courses.
On espère que le monde entier regarde Hong Kong et comprenne que l'on ne va pas renoncer. On va se battre pour Hong Kong, pour toujours. J'aime Hong Kong.
La prochaine épreuve de force risque d'être jeudi. Certains ont le projet de bloquer l'accès au Parlement pour empêcher physiquement le texte qui était à l'origine du rassemblement d'aujourd'hui, la loi sur le respect du drapeau et de l'hymne national chinois. Alors que, depuis la nouvelle loi de sécurité nationale, qui pourrait entrer en vigueur dès jeudi, les Hongkongais sont moins enclins que jamais à respecter le drapeau chinois. Hong Kong, Florence de Changy, France Inter.
La Chine, justement, en quête de respect sur la scène internationale en pleine crise sanitaire, partie de sa province de Wuhan. Le gouvernement chinois se dit prêt à une coopération internationale sur l'origine du virus. Ashraf Ghani, le président afghan, annonce ce soir la libération de près de 2000 prisonniers talibans. Un geste de bonne volonté, dit l'exécutif, en réponse à l'offre des insurgés d'un cessez-le-feu de 3 jours. Le procès pour corruption de Benjamin Netanyahou ajourné après 1 heure d'audience cet après-midi en Israël. Le chef du gouvernement estime que les accusations portées contre lui sont ridicules. Il aurait reçu 200 000 euros en bijoux, cigares, champagne de la part d'hommes d'affaires. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un premier ministre est jugé pour de tels actes pendant son mandat. Un huitième joueur de foot de première division anglaise testé positif au Covid-19. Il s'agit d'un membre du club de Bournemouth. Les instances de foot britanniques espèrent toutefois pouvoir reprendre le championnat au mois de juin.
C'est terminé, Elie Abergel. Eh ben, merci beaucoup pour ce journal des nouvelles du temps. Je suis sûre que vous attendez ça.
Le temps demain.
La météo, avec la Fondation de France, la PHP et l'Institut Pasteur, qui unissent leurs forces pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables. Tous unis contre le virus sur fondationdefrance.org.
Prévision signée Jean-Michel Golinski.
Les conditions anticycloniques que l'on voit se profiler depuis quelques jours se confirment, mettant ainsi un terme au temps pluvieux qui a traversé le pays entre vendredi et samedi dernier. C'est donc une météo sèche qui va s'imposer ce lundi, excepté sur les crêtes des Pyrénées orientales où une ondée est possible. Le soleil sera également de la partie, mais avec des éclaircies moins avantageuses l'après-midi au nord de la Seine et au sud de la Garonne. Les températures vont continuer leur progression lente mais régulière ces prochains jours et ce lundi après-midi, les maximales vont s'orienter entre 20 et 28 degrés de la Manche à la Méditerranée.
Merci Jean-Michel Golinski de Météo France.